opinion. Votre radio. Attendez-vous à plus. Drainville PM. Les chefs.
Le ministre Barrette est incapable, sinon incompétent, d'avoir les augmentations qu'il aurait souhaité avoir pour ouvrir 3000 postes d'infirmières.
Donc le mot bras de fer n'est pas tout à fait approprié.
Je comprendrai que tous les ministres défendent évidemment leurs intérêts budgétaires dans leur ministère. Mais je vous dis aujourd'hui que les conversations qu'on a avec le Trésor sont très positives.
Antoine Robitaille et Alec Castonguay.
Alors, c'est le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, que vous venez d'entendre, répondait à une question d'un journaliste. Et juste avant, Amir Kadir, donc, qui jugeait assez sévèrement, mettons, Gaétan Barrette. Et pour discuter de ça et de bien d'autres choses, Antoine Robitaille est là, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Antoine.
Bonjour, Bernard.
Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour, Alec.
Bonjour.
Allons-y avec toi, Antoine. Donc, entente avec les médecins spécialistes qui continuent de faire des vagues à Québec. Là.
Continue de denter le gouvernement. Vraiment, je pense que le gouvernement, je te l'avais dit hier, là, il avait envie de changer de sujet, mais ils sont contraints de continuer de parler de ça, notamment à cause de plusieurs articles dans les journaux. Donc, ce matin, M. Couillard a senti le besoin là, de faire un point de presse avant d'entrer au caucus. Pour d'abord défendre son ministre. Hein? Il a encore une fois défendu Gaétan Barrette et il a aussi défendu l'entente avec les médecins. On peut l'entendre sur Gaétan Barrette plus précisément.
Je vois qu'on essaie de lui faire une sorte de procès là, dans l'opinion. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs ministres de la Santé que le Québec ait eu. Pourquoi? Oui, il a son style, il a sa personnalité. Parfois, il brasse les choses pas mal, mais il obtient des résultats pour les patients qu'aucun médecin, par la suite, qu'il était médecin ou pas, ministre, ou qu'il était médecin ou pas, n'a obtenu. Et franchement, écoutez, moi, j'ai très humble là-dedans. Moi, si j'ai bien travaillé, ceux qui me suivent vont être meilleurs que moi. J'ai déjà dit ça, puis je le répète encore une fois. Quand j'entends également les gens disent ben, « un gouvernement de médecins pour les médecins », ça me fait franchement, c'est trop, là, ça marche pas. Donnez-moi un médecin qui a été aussi agressif que nous envers la profession médicale. La loi 10, la loi 20, la loi 130, des exigences sans cesse.
Mm-hmm. Ça, c'est vraiment le message principal, là, je dirais, du gouvernement aujourd'hui. Là. Il n'y a pas de médicalocratie. Au contraire, les fédérations nous haïssent. C'est un peu ça que le gouvernement voulait faire passer comme message. Arrêtez de dire que parce que c'est qu'on est des médecins, qu'ils ont beaucoup, on est pris avec des vieux principes mis dans des ententes, notamment par Legault, mais par Couillard aussi, moi, je dirais. Là. Tu sais, M. Legault a fait en sorte qu'on a mis le bras dans le tordeur de l'équité entre les provinces, entre les salaires, des médecins, la rémunération des médecins à travers les provinces. Bien, je m'excuse, là, mais M. Couillard a été aussi ministre.
Non, ça a été continué. Ça a été continué.
Exactement.
Mais pour qu'il sorte comme ça, là... Je vais te dire, Antoine, là, pour qu'il sorte comme ça...
Écoute, dimanche, le PQ a déposé son plan, a dit qu'il fallait revoir les ententes. Aujourd'hui, vraiment, la CAQ et François Legault, plus précisément, a demandé au gouvernement Couillard de même pas signer l'entente là, avec les médecins, puis de faire en sorte que ça soit un des sujets de l'élection. M. Couillard a vu le piège, là, qui était gros comme, je sais pas...
J'en signais pas l'entente, puis c'est l'élection qui va décider si l'entente doit être signée ou pas.
Et François Legault a dit « Ah, moi, j'ai confiance dans les médecins spécialistes qui vont vouloir renégocier cette entente-là qui est beaucoup trop avantageuse pour eux. » Alors, on peut l'écouter, d'ailleurs. Écoutons François Legault.
« J'ai confiance dans la bonne foi des médecins spécialistes du Québec. Et je pense qu'une fois qu'on va leur expliquer, noir sur blanc, voici l'écart de salaire des différents travailleurs entre le Québec puis l'Ontario. Voici votre écart dans l'autre sens entre le Québec puis l'Ontario. Moi, je suis convaincu que je suis capable de convaincre les médecins spécialistes de renégocier cette entente pour que ça soit un montant raisonnable.
Ouais.
Alors, est-ce que ce serait par une loi spéciale? On a posé la question à Philippe Couillard qui a totalement rejeté cette avenue-là parce qu'on sait que oui, il y a des contrats évidemment entre l'État et les médecins et notamment les médecins spécialistes, mais par une loi spéciale, on pourrait défaire ce contrat-là sans trop de conséquences, disent certains juristes qui ont été interviewés notamment dans la presse. Et là, M. Couillard il dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait après? une fois qu'on ça serait, il faudrait négocier quand même. Et tu sais, quand on parle à, comment dire, confidentiellement là aux libéraux, ils disent, t'imagines toi les médecins ce qu'ils peuvent avoir comme pouvoir de négociation. Certains m'ont dit aussi, regarde là, quand on met trop de pression sur les médecins. Oh, il y a des vidéos de coccinelles qui sortent dans les journaux, et de coccinelles dans les blocs opératoires.
Ouais, moi, je vais dire, c'est pas les coccinelles qui me font le plus peur, là.
Non, mais tu comprends que le rapport de force est au désavantage du gouvernement à 8 mois d'une élection.
C'est parce qu'ils sont de plus en plus mobiles, les médecins. D'abord, au Québec, ils sont extraordinairement bien formés, là. C'est vraiment des médecins de top, tu sais, de classe mondiale qu'on forme au Québec, là. Et si on, tu sais, ultimement, c'est parce que tu me parles de rapport de force. Ultimement, là, t'as des médecins qui vont dire, ah ben là, si vous voulez nous écœurer, on va aller pratiquer ailleurs, là. Mm. Antoine.
Oui.
Tu sais, puis former un
en
médecin,
même temps,
là, ça nous coûte
ça a
cher,
été un, je veux dire, ça a été un argument de Gaétan Barrette dans le temps qu'il était de l'autre bord.
Ben oui.
Et lui-même dit aujourd'hui, ça. Ça ne s'est pas vraiment matérialisé non plus, là, toutes ces menaces-là. Même quand les médecins étaient payés, quoi, 40% de moins que dans le reste du Canada. Donc, est-ce qu'ils sont plus mobiles aujourd'hui, toi?
Je pense que les plus jeunes sont beaucoup plus mobiles. Je pense que c'est générationnel. Là. Je ne parle pas juste des jeunes médecins. Je pense que les jeunes, de façon générale, sont beaucoup plus mobiles aujourd'hui.
Tu poses la question.
Oui.
Pourquoi il est sorti le premier ministre comme ça avant de rentrer au caucus? C'est aussi à cause de la sortie de Claude Castonguay à 24-60 à Radio-Canada hier. Là. L'ancien ministre, le fondateur du système de santé québécois, a qualifié les propos la défense de Philippe Couillard de cette entente-là d'ânerie. Il a demandé aussi la démission de Gaétan Barrette. Alors, tout à l'heure, M. Couillard a dit, écoutez, moi, je n'utiliserai pas des propos aussi durs à l'égard de M. Castonguay, qui est un ancien, après tout, un ministre libéral. Mmh. Mais il a répété les arguments, là. Les arguments en faveur de cette entente-là, selon lui, c'est l'abandon d'une clause remorque.
Que les libéraux avaient eux-mêmes consenti.
Oui,
à laquelle ils avaient eux-mêmes consenti, oui.
Qui fait économiser, selon les propos, selon le vocabulaire du premier ministre, et aussi une certaine garantie de traitement en région. Donc, il y a beaucoup d'avantages, selon lui. Alors, c'est ce qu'il a répondu. Il a été obligé de répondre à Claude Castonguay. L'autre raison pour laquelle il a dû sortir, c'est toutes ces informations selon lesquelles il y aurait une guerre au Conseil des ministres entre le ministre Barrette et le président du Conseil du Trésor, Pierre Arcan. Et là, c'est des demandes très grandes de Gaétan Barrette qui souhaiterait une augmentation du budget de la santé de 5,2%, notamment pour embaucher des infirmières. Et là-dessus, Philippe Couillard a répondu, mais écoutez, tous les ministres de la Santé, y compris moi, font toujours des demandes très grandes au Conseil du Trésor. Là, il y a des gens qui me disent dans l'entourage du premier ministre, 5,2, c'est même pas le chiffre de Gaétan. Donc, est-ce que c'est vrai? Donc, est-ce que c'est une guerre ou est-ce que c'est un rapport de force, un tiraillement normal entre le Conseil du Trésor et le ministre de la Santé? La question reste ouverte. Puis évidemment, il y a cette rencontre-là, une autre raison pour laquelle M. Couillard est sorti aujourd'hui. Il y a une rencontre entre Gaétan Barrette et la Fédération des infirmières du Québec. Et bon, là, Gaétan Barrette, tout à l'heure, a dit en point de presse, écoutez, les ratios d'infirmières-patients, là, c'est le combat des infirmières et notamment de la nouvelle présidente de la FIC. Ça, on ne peut pas le mettre dans un projet de loi nécessairement, mais vous allez voir, il va y avoir des bonnes nouvelles à l'issue de cette rencontre-là. On peut écouter Gaétan Barrette à ce sujet.
L'entente qu'on a signée avec les infirmières était une entente historique. Prévoyait en 2015 qu'on allait revoir la question de la dotation de postes et celle des ratios. On est là-dedans. Le sujet qui a mon attention aujourd'hui et qui nécessite qu'il ait mon attention est celui des infirmières. Oui, j'ai rencontré cet après-midi, puis c'est pas la dernière rencontre, parce qu'on va régler cette question-là à l'intérieur de ce mandat-ci.
On va régler laquelle des questions? Les ratios?
Les ratios, oui.
Ah oui?
C'est quelque chose. Hein?
Mais ça va prendre de l'argent?
Ben oui, ça va prendre de l'argent. C'est pour ça qu'il en demande à Pierre Arcan.
Tu peux pas diminuer. Tu peux pas diminuer ratio infirmière-patient si ça te prend plus d'infirmières pour diminuer ratio. C'est mathématique.
Je pense que Gaétan Barrette aurait voulu, pour avoir plus d'argent, justement, ne pas en donner autant aux médecins.
Mais c'est clair
que c'est
ça. Il
a été pratiquement tassé des négociations.
Mais Antoine,
là, je dis pratiquement parce que le premier ministre, encore tout à l'heure, à chaque fois que je dis oui, mais vous vantez Gaétan Barrette, vous vantez son caractère fort, mais vous l'avez tassé.
Ouais.
Puis là, il dit non, c'est pas vrai, il était dans l'équipe et tout ça. Bon,
ben, voyons.
En terminant, ce point sur la santé, je dirais, en crise, ces salles d'opération, cette salle d'opération, en tout cas, transformée en insectarium, hein? Coccinelle et compagnie et fourmis.
À l'hôpital Charlemagne.
Le ministre, oui, c'est à l'hôpital Charlemagne, merci. C'est le ministre de la Santé a aussi commenté cette affaire-là qui est dans le journal de Montréal ce matin. Il a déclaré que ce problème-là, au fond, d'infestation d'insectes, c'est le signe qu'il y a vraiment des vieux hôpitaux et qu'il faut rénover ces infrastructures. C'est comme, évidemment, une évidence, là, je dirais. On
Mais
peut
écouter
Gaétan Barrette à ce sujet.
Ouais, okay.
La solution n'est pas simplement de corriger les défauts physiques, mais de procéder éventuellement à la réfection du bloc opératoire. Maintenant, encore faut-il avoir des projets qui sont mis sur la table. Je vous informe que l'institution nous a déposé un projet en décembre. Là. Alors, ce projet-là, il faut l'analyser.
Oui, OK.
C'est ça qui va prendre 2 ans encore. Là, puis, il avait l'air un peu à s'impatienter. Puis il dit en même temps, il dit, les salles d'opération, on en a besoin. On ne peut pas les fermer pendant 2-3 ans. Donc, il avait l'air à dire, c'est pour ça que parfois, on essaie de simplement mettre un cataplasme sur une jambe de bois.
Mais on peut pas juste passer, tu sais, on ferme la salle, l'exterminateur fait sa job, puis après ça, on désinfecte, puis on recommence. Non, on peut pas faire ça dans une salle d'op, ça se fait pas, ça.
Mais là, le problème semble tellement grand qu'il faut la refaire. C'est ça que je comprends, moi. Il faut refaire le bloc opératoire qui a été construit dans les années 70.
Parce que si tous les vieux blocs opératoires au Québec commencent à être infestés de coccinelles, mon ami,
M. Barrette a dit que dans des hôpitaux, c'est pas le seul cas, il a dit qu'il y en a d'autres. Bon. Ça donne le goût de chercher, mais je veux dire, lui-même, hein, le crapaud est jamais loin.
C'est clair.
Mais M. Barrette a dit, même moi, quand je pratiquais et quand j'étudiais, j'ai vu ça régulièrement.
Bon, très bien. Parlons...
Donc, faut-tu s'habituer à ce que nos salles d'op soient des insectariums?
Oui, j'ai pas le goût de m'habituer à ça.
Non. Non. Hey, c'est dangereux hein, pour
c'est
la propagation des...
De toutes sortes de
bébites.
Infectieuses, oui.
Infectieuses, merci.
Alec Castonguay, parlons un petit peu de Justin Trudeau qui est en Inde, en visite officielle.
Toujours déguisé?
Toujours, oui. Toujours. Très important. Moins aujourd'hui, par exemple. Mais dans les derniers jours, il l'était.
Est-ce que ça t'agace, toi, qu'il se promène autant en habit
traditionnel
du pays, on va dire? Ouais.
Avec sa visite internationale des temples.
C'est incroyable.
Je pense qu'il en a fait 4.
Plus que ça.
Depuis dimanche, 4 ou 5. Là,
ouais. Depuis dimanche. Mais sur l'ensemble de son programme, il va avoir fait un temple hindou, un temple bouddhiste, il va avoir fait un temple sikh, une mosquée et une église catholique.
Ça fait 5 quand même. Mais là, on est rendu à 3 ou 4 là, déjà depuis le début du voyage, qui dure jusqu'à vendredi. Donc,
il doit se chercher un témoin de Jéhovah peut-être, un temple pour témoin de Jéhovah en Inde.
De tout couvrir. Y a-t-il une église anglicane perdue quelque part qu'on pourrait visiter? Mettez-vous là-dessus, là, qu'on en trouve une.
C'est pas un petit peu trop.
Ben écoute, d'abord, c'est sûr que la religion en Inde, c'est quelque chose de très important. Là. C'est imbriqué dans la fabrique culturelle, donc c'est à peu près un passage obligé pour tout visiteur officiel. Moi, je commence à trouver que ça en fait beaucoup. Et je pense que ça meuble un peu un voyage, puis on y arrivera dans quelques secondes, mais ça meuble un peu un voyage qui était depuis très longtemps voulu par le premier ministre. Ça fait 2 ans qu'il essaie d'aller en Inde en visite officielle. Puis il se faisait dire par le premier ministre indien, M. Modi, que la tiédeur du gouvernement canadien envers les séparatistes sikhs, parce qu'on a une grande communauté sikh ici au Canada. Mm-hmm. Et tu sais qu'il y a un mouvement séparatiste sikh qui veut créer le Khalistan au nord de l'Inde. Et il y a des ministres sikhs dans le gouvernement Trudeau. Il y en a 4. Et depuis que ça s'est fait, Nous, nous y avons vu ici une belle, un bel exemple de diversité canadienne. Mais en Inde, on y a vu aussi peut-être le rapprochement du gouvernement canadien avec une communauté qui, on le sait là-bas, est perçue comme voulant faire la séparation d'une partie de l'Inde.
Ah oui.
Et donc, ils sont très froids. Ils ont envoyé le message depuis 2 ans que si Justin Trudeau voulait venir, il devait tempérer, il devait clairement exprimer qu'il était en faveur d'une Inde unie puis condamner le mouvement séparatiste sikh. Ce qu'il a peu fait parce que du côté de Justin Trudeau, il trouve que c'est une question de liberté d'expression et qu'au Canada, la communauté sikh a le droit, jusqu'à un certain point éventuellement, évidemment, de parler de ce sujet-là. Donc, on ne s'entendait pas très bien avec le gouvernement.
C'est comme s'il y avait 4 bloquistes dans le gouvernement indien qui nous visitent.
Ben, eux, ils le perçoivent comme ça, en tout cas. Exactement. Et même si les ministres du gouvernement Trudeau ont dit qu'on n'est pas sympathique à la cause séparatistique, Harish Chajan, qui est le ministre de la Défense, est allé en Inde en avril dernier.
Pas été très bien reçu.
Ministre responsable du Punjab, M. Amarinder Singh, qui d'ailleurs va rencontrer Justin Trudeau finalement demain, parce que les boudait Justin Trudeau depuis son arrivée là-bas, va le rencontrer demain, avait refusé de rencontrer le ministre canadien de la Défense en l'époque en avril, l'accusant d'être un sympathisant de cette cause-là.
C'est à l'intérieur du Punjab que la communauté sikh a ce mouvement
revendicateur très, très fort,
ou séparatiste. Ouais.
Et donc, M. Sajjan s'en est défendu en disant c'est blessant, c'est ridicule, je n'en suis pas. Mais quand même, il y a cette suspicion que le gouvernement canadien est trop près de cette mouvance-là. Et donc, on ne voulait pas recevoir Justin Trudeau depuis 2 ans. Là, on le reçoit, mais on a clairement signifié que ça allait être à la toute fin du voyage. Il va rencontrer le premier ministre Modi, mais il va rencontrer seulement vendredi, tout juste avant de quitter vers l'Inde. Et la manière dont on m'a expliqué ça, c'est comme si on avait mis la visite officielle de Justin Trudeau sous surveillance pour pas qu'il se mette les pieds dans les plats puis que finalement, il puisse affirmer 2 fois plutôt qu'une ce qu'il a fait jusqu'à présent, qu'il est en faveur d'une Inde unie. On lui a dit, on va te rencontrer, mais on va te rencontrer après les 5-6 jours que
tu
es là.
Tu vas être en probation.
Ouais, on va te laisser dire partout dans les médias que tu es en faveur d'une Inde unie. Puis si tu le fais bien, on va te rencontrer. Hein, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, tout ça pour dire que fallait qu'il meuble du temps. Hein? Il a rencontré aujourd'hui des hommes d'affaires à Mumbai, je t'en parlerai dans 2 secondes, mais depuis 2 jours, c'était tranquille sur l'agenda du premier ministre. Il était sous surveillance indienne, tu comprends? Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps?
Pour ça qu'il est allé
tu visites des temples. C'est ça que tu fais en Inde. Alors, ça fait partie de l'explication, qui n'est pas la seule, parce que l'autre...
Est-ce que le fait que sa femme est une prof de yoga et... Est-ce que ça joue, ça, dans la curiosité, la volonté de
alors,
s'habiller?
Alors Alec vient de se prendre la tête entre les deux.
On me dit, il y a juste Antoine pour penser à des affaires de même.
Non, je ne sais pas si le fait qu'elle est une prof de yoga l'incite à visiter des temples avec son mari. J'avoue ne pas savoir, Antoine, la réponse à cette
Antoine,
question.
Antoine, bientôt, tu vas nous proposer de faire un petit arrêt là, dans cette émission et de se mettre en position lotus et de...
Oui. Mais actuellement, je suis en position
lotus. Mais Trudeau, l'une des raisons aussi pour laquelle il fait cette visite-là et qu'il visite ces temples-là et ces endroits-là, c'est que lui aussi, au Canada, il y a une élection qui s'en vient dans 18 mois. Ben, il veut se rapprocher de la communauté indienne, qui est très puissante aussi. Il est perçu comme étant proche de la communauté sikh, évidemment, en raison de ses ministres, mais il a besoin du vote indien aussi. Donc là, les images...
C'est 1 million de Canadiens d'origine indienne, ça se peut-tu?
Oui,
c'est ce que j'ai lu.
Et fortement concentré dans certaines régions en particulier. Donc,
Toronto, Vancouver, un peu à Montréal aussi, ils sont présents.
Moi. Alors, les photos là, font partie, évidemment, de l'entreprise de séduction ici au pays pour rappeler aux Indo-Canadiens qu'il est très favorable aussi à leur pays. Et donc, là, on avait ce petit flottement. Tout ça pour dire qu'il était tout à fait temps que Justin Trudeau annonce quelque chose. Et donc, aujourd'hui, ils ne se sont pas gênés parce qu'il est en visite quand même officielle. Il y a 200 entreprises canadiennes qui l'accompagnent pour cette mission commerciale-là. Donc, il rencontrait 6 chefs de grandes entreprises aujourd'hui, des gros noms, là, Tata Sons, Infosys, Mahindra Group, bref, des gros groupes qui ont des intérêts au Canada. Et donc, on a signé 66 ententes totalisant 1 milliard de dollars en promesses d'investissement au Canada. On parle de 5 800 emplois qui vont être créés au Canada par les entreprises indiennes. Et donc, on avait au moins des nouvelles économiques à donner aujourd'hui parce que je te dis que ce dont on discute, là, ça commence à être le sujet principal de la visite de Justin Trudeau, le froid avec le gouvernement indien. Donc là, il était temps qu'on annonce des nouvelles économiques. On le fait aujourd'hui, ça va faire baisser un peu la pression. Demain, il va avoir la rencontre avec le dirigeant de l'État du Punjab, dont je te parlais, M. Amarinder Singh. Ça devrait ça aussi faire baisser la pression parce que lui, il était l'un des critiques assez virulents du rapprochement de Trudeau avec la communauté sikh canadienne. Donc, le fait qu'il accepte de le rencontrer, ça va probablement faire baisser la tension un petit peu. Et je te fais entendre, donc, en terminant, Un extrait de Justin Trudeau ce matin, à qui on a posé la question dans un bref point de presse. Est-ce qu'il sert à quelque chose, votre voyage jusqu'à présent?
Oh boy.
C'était avant les annonces d'un milliard, mais quand même, on lui a posé la question. Voici sa réponse.
Comme vous savez, quand je voyage, je rencontre bien des gens pour défendre les intérêts du Canada, pour parler de nos valeurs. On n'a pas finalisé tous les détails. J'ai une très bonne équipe de ministres sur ce voyage. Whether it's our ministers engaged across the country, having tremendous meetings, not just with politicians, but with business leaders. I know there are deep connections for many Indo-Canadians with the Punjab, but there is always a lot more to a relationship than just photos, and that's certainly a big part of what I'm looking forward to.
Mm-hmm. Bref, on tisse des liens, on rencontre des gens, pas juste des politiciens, des hommes d'affaires, des représentants des communautés. Donc, mes ministres sont bons, sont ici, ils travaillent aussi à rencontrer des gens. Bref, on fait notre possible, comme on dit. Mais c'est un sujet qui est délicat. Stephen Harper avait le même problème hein, sur la question du Khalistan. Je me souviens que Jason Kenney, des conversations que j'avais avec lui, qui était ministre à l'époque l'immigration, mais qui était le représentant officiel du gouvernement auprès des communautés culturelles, avait toujours cet équilibre-là délicat. La communauté Sikh ici, la communauté indienne, pour pas reproduire les combats à l'extérieur du Canada, ici, dans les communautés. C'était un équilibre délicat. Harper est allé seulement une fois en Inde en voyage officiel en 2012, alors que pourtant, il disait que c'était une priorité. C'est un endroit qui est complexe là, pour la politique canadienne. On met les pieds dans une politique interne là-bas qui n'est pas nécessairement évidente. Puis là, ben, Justin Trudeau, si ça n'était pas rendu compte, il le ressent pleinement.
Et là, il y a Madame Perraudeau qui nous écrit pour dire « Sachez, monsieur, que ce n'est pas un temple ni une église, dans le cas des témoins de Jéhovah, mais une salle du royaume et le premier ministre peut nous visiter en tout temps. La salle est ouverte. » Ah, voilà. Alors, le message est transmis.
Est-ce qu'il y a un habillement particulier à revêtir? Parce que M. Trudeau, c'est ce qu'il aime, là, c'est changer.
Je ne crois pas. Costume. Alors, peut-être que ça rend ça moins exotique.
Sauf quand il vient au Québec. Antoine,
je t'arrête.
Pardon.
Antoine, je te rappelle à la discipline parce qu'on me rappelle dans l'oreille qu'il
faut aller
à la pause.
Moi, j'ai juste une chose à dire, c'est namasté.
OK, tu nous diras ce que ça veut dire au retour. Bon, Antoine, je te laisse 20 secondes pour nous dire ça veut dire quoi, namasté.
Ben bonjour, tu sais, les gens qui font du yoga, là, ils t'envoient des namastés. Alors, c'est communément employé pour dire bonjour et au revoir en Inde.
OK, puis donc, on se met les...
Alors, je te dirai pas au revoir aujourd'hui. Non, mais... Je vais dire namasté.
Puis quand on dit namasté, est-ce qu'on serre les deux mains, là?
On serre les deux mains.
On serre les deux mains, puis on
baisse
la tête. Oui,
c'est pour ça que quand j'ai vu Madame Trudeau, Madame Justin Trudeau, comme on les appelait dans le temps.
Oui, oui.
Oui, qui se mettait les mains comme ça en prière. Je me suis dit, je l'entends dire namasté d'ici.
Très bien, Antoine, merci, c'est tout. On va retourner à Alex.
C'est un sujet vraiment percutant.
Antoine, veux-tu aller?
Je me tais!
Antoine, discipline!
Il me fait encore rire. Après 10 ans au micro, il me fait encore rire. C'est incroyable.
C'est mon incontinence verbale que t'aimes.
Mais si tu voyais, il y a un air un peu découragé.
Ah, mais là, j'aime ça. Ça me fait rire. J'avais juste pas pensé à ça. Le yoga, j'avoue, là, de Sophie Grégoire, non.
Bon, alors, parle-nous des congés parentaux.
Oui, rapidement, parce que les papas québécois, semble-t-il, sont chanceux. Parce que dans le reste du Canada, tu sais qu'il n'y a pas de congé pour le père qui vient d'avoir un enfant avec sa conjointe. On peut prendre quelques jours sans solde, là, mais c'est vraiment très, très minime. Alors qu'ici, on a 5 semaines. On a le droit à 5 semaines de congé pour les papas. Alors, Justin Trudeau trouve que ce serait bien que les papas ailleurs au pays aient un peu plus de congés lorsqu'ils ont un nouveau-né, eux aussi. Est-ce que ça va être dans le prochain budget? Est-ce qu'on va promettre ça pour la prochaine élection? À quoi ça va ressembler? C'est encore flou, mais il en a parlé aujourd'hui lors d'une table ronde avec des femmes entrepreneurs en Inde, puis a ouvert la porte à donc bonifier le congé pour les papas. Ça touche pas le Québec, on a déjà notre programme. Je fais juste le dire parce que c'est intéressant qu'il y ait finalement des gens qui se soient rendus compte que, ben oui, les papas aussi ont le droit de passer un peu de temps avec leur nouveau-né et surtout d'aider la maman qui, elle, après un accouchement, a souvent besoin d'un petit coup de main.
T'as pris combien de temps, toi, Alex?
Moi, j'ai pris les 5 semaines. Okay. Je ne les ai pas pris toutes d'un coup parce que moi, Delphine, elle est née en pleine campagne électorale fédérale.
Ah oui, je me souviens.
Alors, je ne fais quand même pas m'absenter pendant toute la campagne électorale.
Mais tu as pu prendre le reste après, non?
C'est ça, exactement. C'est ça. On a un an pour le prendre.
Ouais. Alors, Bernard,
j'ai pris une semaine, puis j'ai repris les congés.
Bernard, y a-tu pris
les congés? Même chose, même chose. Ah oui? Même chose. Ah oui, absolument. Ah oui. T'as l'air sceptique, Antoine.
Non, mais toi, il me semble que t'étais en politique. Non, c'était avant.
Non, c'est ça, c'était avant. Non, les trois étaient là quand je suis arrivé en politique.
Hey, moi, il n'y avait rien de tout ça. Là.
Non.
Oui,
ils sont restés marqués, hein?
Oui, ils s'ennuient de moi.
Oui, c'est sûr.
Ils sont contents quand je suis là.
Oui, oui, bien c'est sûr. Vite, Patrick Brown, Alec Castonguay,
Parce que c'est surréaliste ce qui se passe en Ontario dans la course à la direction du Parti progressiste conservateur. L'ancien chef Patrick Brown, qui a eu des allégations d'inconduite sexuelle contre lui, a été éjecté du caucus officiellement de son propre parti. Donc, il n'était plus chef, mais il était encore membre du caucus. Vendredi, les députés ont voté pour l'exclure officiellement du parti. Puis, une heure et demie plus tard, il déposait son propre bulletin de candidature à sa succession. Alors, il est candidat à la course du Parti conservateur.
Parce qu'il nie. Il nie en bloc.
Lui, il nie en bloc. Il dit qu'il y a des bouts du reportage de CTV qui sont faux. Il a donné des entrevues à différents médias pour blanchir sa réputation. Lui, il dit que c'est fait. Il dit qu'il a passé deux polygraphes, des détecteurs de mensonges avec succès. Ben, ça, on ne le sait pas, mais c'est ce qu'il dit. Et il dit, moi donc, là, c'est un coup monté. Alors, je me présente à ma propre succession. Et là, tu te retrouves...
Moi, j'envie les journalistes. Ça doit tellement être fascinant à couvrir. Là.
Eh bien là, écoute, ceux qui sont actuellement candidats, là, l'ancienne députée Christine Elliott, Doug Ford, le frère de Rob Ford à la mairie de Toronto, Caroline Mulroney, puis une dame qui s'appelle Tania Granick-Allen. Nous autres, tu comprends bien qu'ils sont dans une situation un peu délicate. Là. Ils ont en phase 2 dans la course celui qui a été mis à la porte du parti et qui donc a provoqué cette course-là. Puis lui, il maintient qu'il n'y a rien à se reprocher puis il veut gagner. Puis à son annonce officielle de candidature dimanche, il y avait quand même quoi, 15, peut-être même 20, en tout cas entre 15 et 20 candidats à la prochaine élection qui a lieu au mois de juin, qui l'appuyaient. Tu te retrouves dans une situation, ma foi, assez incroyable. C'est juste une saga.
Puis ils s'en vont en élection. Les Ontariens s'en vont en élection le 7 juin.
C'est ça. Donc la campagne commence au début mai. C'est proche, là. Le vote est le 10 mars pour choisir leur chef. Fait que là, t'as l'ancien chef déchu qui veut reconquérir son propre parti. Puis les autres qui disent, ben, je suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'avoir en campagne électorale, cet homme-là. C'était très particulier.
Ça va être intéressant. On va en reparler. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête parlementaire du Journal de Montréal et de Québec. Merci.
Namasté.
Namasté.
Namasté. Comme ça,
c'est ça. À demain.
Et Loïc Tassé s'en vient pour nous parler de l'international.